Foucault de Bois-Guillonnec, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes neurologue au CHU de Poitiers et nous allons parler ensemble de diagnostic précoce, justement pour pouvoir mettre en place toutes ces démarches qui aident à protéger notre cerveau. Alors, on l'a dit, entre les personnes qui s'affolent dès qu'elles ne savent plus où elles ont posé leurs clés et ceux qui nient absolument ou ne voient pas le problème alors que leur entourage, eux, a bien identifié qu'il y a eu des changements, c'est pas toujours facile de savoir à partir de quand il faut venir consulter un neurologue. Vos conseils, s'il vous plaît.
Bien, merci de m'avoir invité à cette intervention. C'est pas évident de passer après Bruno Dubois. Je vais essayer de ne pas dire trop de banalités. Quel est l'intérêt du diagnostic précoce? Je ne vais pas vous parler du diagnostic précoce en lui-même, puisque ça a été dit à l'instant, sur les méthodes. Je vais juste, paraphraser brièvement cette notion de maladie d'Alzheimer prodromale pour bien caler les choses. Il nous faut aujourd'hui un trouble de mémoire précoce et significatif, c'est-à-dire quelque chose qui soit rapporté par le patient ou par son entourage, qui peut être isolé. Il n'y a pas besoin d'un déficit cognitif autre. Il faut que ça soit progressif sur une période de plus de 6 mois. Et puis surtout, il faut que ça soit confirmé par des tests validés. Et puis, ont été développés ce que Bruno a évoqué, c'est-à-dire des critères qui sont des biomarqueurs et qui vont permettre des critères de neurodégénérescence, des critères d'amyloïdopathie ou d'autopathie qui dépendent de l'IRM cérébral, du TEP scan, du LCR, éventuellement de la génétique. Je ne reviens pas là-dessus, puisque moi, c'est un point de départ, c'est-à-dire on sait qu'il y a des biomarqueurs qui sont positifs bien avant les symptômes cliniques et la démence. Alors, pourquoi le diagnostic précoce? Est-ce qu'on peut se passer de la clinique? Je pense que vous avez compris que non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes, d'équipes dans le monde qui voudraient une définition strictement biologique de l'Alzheimer. Ça pose des questions carrément sur le concept de maladie. On ne va pas rentrer là-dedans. Est-ce qu'on peut fonder un diagnostic que sur des lésions, que ce soit en imagerie ou LCR, etc. La réponse est plutôt non pour tous les arguments qui ont été évoqués. Alors, je m'appuie sur ce schéma que j'aime bien de l'OMS, c'est-à-dire que il y a des niveaux qu'il ne faut pas mélanger. En fait, on a toujours tendance à faire cette confusion. Beaucoup de patients viennent en consultation et peuvent m'ouvrir leur IRM avant même de m'expliquer leur plainte et me dire on m'a trouvé une atrophie hippocampique jusqu'au jour où on me parlera des biomarqueurs. Est-ce que j'ai un diagnostic d'Alzheimer? Alors, la réponse qu'on donne en général, c'est non, il faut un faisceau d'arguments. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, il y a une espèce de corrélation anatomo-fonctionnelle, comme on dit, entre des éléments qui sont certes lésionnels, mais préalablement, il nous faut ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire des éléments de plainte du patient qui font référence au handicap, c'est-à-dire une plainte subjective qui peut être l'oubli à mesure, qui peut être la désorientation. Et ça doit être confirmé par des tests objectifs. Et on va donner un autre nom. Et tout ça n'est pas interchangeable. On a une méchante tendance à prendre l'atrophie hippocampique pour syndrome hippocampique, qui signifie Alzheimer, et qui signifie, qui remplace d'ailleurs l'oubli à mesure. Tout est interchangeable. En fait, non, on ne peut pas vraiment les remplacer aujourd'hui. Je pense qu'il est très important de distinguer ce qui relève du handicap, d'autre part de l'incapacité, d'autre part de la lésion. Un déficit cognitif ne signifie pas forcément une démence, s'il n'y a pas de retentissement socio-professionnel, et ne signifie pas non plus nécessairement une maladie neurodégénérative. Il faut distinguer, je crois, ces différents plans pour pour simplement être plus performant en termes de diagnostic. Quand je dis que ce n'est pas un faisceau d'arguments, c'est que c'est plutôt un alignement. J'entends par là que... je perds le fil de ma pensée.
Des choses que vous avez repérées ou que les proches ont repérées et qui vont aller dans le sens d'une confirmation de diagnostic. Est-ce que vous avez des exemples de choses fréquentes que les proches ou que les malades vous disent lors des consultations ?
C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez juste un oubli à mesure et que vous arrivez à le confirmer par des tests, vous pouvez faire une hypothèse topographique. Et si vous vérifiez par les examens que vous avez une atrophie hippocampique, vous avez une très forte probabilité de diagnostic. En bref, par un point, il passe une infinité de droites. Par deux points, il passe qu'une seule droite.
Donc les gens vous disent, mon proche n'a plus le même comportement, mon proche, c'est pas seulement une histoire de mémoire, ça fait partie des arguments pour cet alignement des faisceaux.
Il faut prendre très au sérieux la plainte du patient en détail pour ensuite la confirmer. Voilà, bon, je passe sur l'extension des lésions sur différents territoires qu'on pourrait considérer comme une pathologie un peu globale et diffuse. Et j'aurais simplement rappelé d'une manière un peu schématique que si on prenait le cortex et qu'on l'étalait comme une carte de géographie, en fait, cette pathologie, elle a un tropisme très particulier. C'est-à-dire que, en fait, elle s'en prend à une structure qui est cet hippocampe. D'habitude, l'information qui est traitée, elle passe par le cortex primaire, des modalités sensorielles, c'est traité par un cortex associatif, et puis c'est vécu par l'hippocampe. L'hippocampe, ce serait un peu le pôle subjectif, c'est-à-dire, en fait, c'est moi qui vis telle situation. Il se trouve que c'est ce vécu subjectif qui est altéré en premier, et quand la maladie se développe dans sa forme la plus classique, elle commence par l'amnésie et s'étend vers un syndrome aphaso-apraxo-agnosique. Alors on sait qu'il y a différents phénotypes. Il y a ce phénotype qui est le plus classique. Et puis il y a des personnes plus jeunes qui peuvent rentrer dans la maladie par des troubles praxiques, des troubles de langage ou des problèmes de reconnaissance avec des noms différents, mais peu importe. Alors...
C'est au contraire, c'est le contraire du subjectif. C'est l'action au présent, la pleine conscience. Vous comprenez ? C'est ce qu'on cherche à travers le ping-pong. C'est être conscient au moment, à l'instant, pour réagir en conséquence. Ça n'a rien de subjectif.
On va y venir. Je vous propose de laisser notre intervenant aller au bout de sa démonstration. Mais pour moi intéressant quand on a préparé cette intervention, vous avez bien expliqué que cette évolution se fait de façon non linéaire.
Absolument.
Qu'il y a des phases et que tout l'intérêt du dépistage précoce, il est là pour, je pense que c'est vraiment un message très important à faire passer aujourd'hui.
Alors, peut-être que je vais finir pour éventuellement répondre à votre question.
On va garder une place pour les questions, il n'y a pas de souci.
Alors, je voudrais effectivement attaquer cette question. Pourquoi un diagnostic précoce alors qu'on n'a pas encore vraiment les médicaments pour arriver peut-être effectivement à un certain type de prise en charge, etc. Bon, comme vous le savez, il y a un vieillissement physiologique qui touche plutôt la performance. Elle m'a dit Alzheimer, une évolution qui est beaucoup plus sévère. Mais en réalité, cette évolution n'est pas linéaire. En fait, on a plutôt une cassure dans la courbe avec... finalement, trois phases. Une phase de déficit avec les symptômes qu'on a évoqués, le trouble de mémoire, la répétition, et qui va correspondre au diagnostic. On a une deuxième phase qui va survenir peut-être entre 3 et 6 ans et qui va être cette cassure où apparaissent les troubles du comportement avec de la confusion. Et finalement, une troisième phase qui est celle des complications d'organes avec l'institutionnalisation et finalement le décès. Alors, L'objectif de faire un diagnostic précoce, c'est peut-être de retarder cette cassure qui délimite deux phases. Une phase avec une qualité de vie qui est correcte et une phase où on se retrouve en institution avec toutes ces complications et tout ce qu'on connaît. Il est peut-être possible de moduler, d'intervenir pour moduler le moment où survient cette cassure. Cette cassure, c'est la confusion. En fait, on parle souvent de la maladie d'Alzheimer sans voir ce côté non linéaire. Pour beaucoup d'organes, on parle d'insuffisance cardiaque chronique, on parle d'insuffisance rénale chronique, et on a le corollaire, c'est-à-dire une décompensation aiguë. Et dans le cas de la démence, ou en tout cas de la maladie d'Alzheimer, on entend une pathologie chronique d'évolution progressive. On oublie un peu qu'elle a des décompensations brutales. Cette décompensation, c'est la confusion. Et au fond, la confusion, c'est rien d'autre qu'une, le plus souvent, une décompensation aiguë d'une insuffisance cérébrale chronique. Et pour expliquer cette décompensation et cette cassure dans la courbe, eh bien, je pense qu'il faut mettre en jeu deux choses. Le fait que la pathologie en elle-même, elle a une évolution qui est plutôt linéaire, comme on l'a vu, mais ce n'est pas le tout. Il y a un seuil. Ce seuil, c'est l'état d'éveil, l'attention qu'on a tous et qui est variable normalement d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, etc. Sauf que quand on n'a pas de maladie, eh bien, même quand ce seuil est bas, on n'a pas de symptômes. Et la métaphore que je prends, c'est qu'en principe, quand il n'y a pas de récif, à marée haute ou marée basse, eh bien, le paysage est le même. La différence, c'est que avec une maladie, une pathologie neurologique, et en particulier Alzheimer, eh bien, on a quelque chose qui est linéaire dans son développement, mais qui a une présentation brutale parce qu'il y a un effet de seuil. Et c'est ce seuil qui peut varier en fonction des conditions de vie, en fonction de plein de paramètres, y compris d'ailleurs certains traitements. Ce seuil peut être abaissé naturellement, il peut être abaissé par différents facteurs, mais il peut être aussi relevé et donner l'impression que la maladie apparaît soit brutalement très tôt, soit au contraire est retardée. Alors, comme mécanisme de compensation, le plus simple, c'est en général l'aidant, le conjoint. Et il intervient tellement bien que finalement, la maladie peut faire illusion pour l'entourage, pour les personnes extérieures, y compris pour les enfants, et quelquefois pour l'aidant lui-même, qui finalement intervient de plus en plus jour après jour et se rend à peine compte de sa contribution. Et finalement, ça fonctionne quelquefois dans un couple comme un seul homme, si j'ose dire. C'est-à-dire que tout ce que l'un ne fait pas, l'autre le fait. Sauf que cette charge, évidemment, augmente jusqu'à ce qu'il y ait épuisement. Et on a une prise de conscience qui est quelquefois très brutale chez l'aidant de son épuisement et qui est assez souvent corrélée à des phénomènes d'irritabilité, d'impatience, d'incompréhension mutuelle, qui aboutit finalement à cette décompensation du patient. Et cette décompensation, évidemment, quand il n'y a pas d'aidant, elle survient plus tôt. Alors, un petit point sur lequel je voudrais encore insister, c'est que donc la confusion, ce n'est pas du déficit. Beaucoup de familles et de patients viennent nous voir en consultation régulièrement avec l'idée qu'il faut refaire des tests de mémoire et puis pourquoi pas refaire des examens, des IRM, etc. Et ce n'est pas toujours évident de leur faire comprendre que les troubles, les signes d'alerte ne sont pas forcément des signes de déficit. Alors, on peut faire des bilans neuropsychologiques, constater que les troubles de mémoire s'aggravent année après année, mais en réalité, les signes d'alerte sont très souvent psychiatriques. Le patient qui rentre dans un état de confusion, il a un rapport à la réalité qui se dégrade. Et il va développer des crises d'angoisse, de la dépression, et puis finalement des hallucinations. Donc la rupture, elle est comportementale. Derrière le comportement, c'est très souvent psychiatrique. Finalement, ça permet d'aborder, avant de finir, parce que ça va être finalement très court, tous ces facteurs qui peuvent permettre à la fois la compensation et qui peuvent provoquer une décompensation. Alors on pense souvent à des aux pathologies organiques intercurrentes, mais il faut bien voir que, et la famille le repère en général, il y a tous les événements de vie. Donc un deuil, un déménagement, puis à commencer par l'épuisement de l'aidant, suffit à provoquer cette fameuse décompensation et ces symptômes confusionnels. Et puis après, quand on arrive dans cette phase assez tardive de la maladie, eh bien, on a nécessairement l'hospitalisation. Quand on a une confusion qui est brutale, qui apparaît, eh bien, on n'a pas le choix, il faut hospitaliser le patient. Et la famille nous fait le reproche qu'elle nous adresse le patient pour qu'on l'améliore et que finalement, tout ce qu'on fait ne fait que l'aggraver. Et donc, il y a, en fait, tout à l'hôpital est fait pour aggraver le patient. Le patient qui a déjà des troubles cognitifs, qui a de l'amnésie, qui a des difficultés d'orientation et d'adaptation, on le change d'environnement. À l'hôpital, on a du mal à reconnaître les lieux, on a du mal à reconnaître l'heure, etc. Donc le patient est complètement désorienté. À ça, vous ajoutez l'iatrogénie, les médicaments qu'on ajoute et les anesthésies. Et puis finalement, quand on est hospitalisé, c'est qu'il y a souvent une pathologie d'organes. Le patient, d'une manière ou d'une autre, il est tombé, il a fait peut-être un trouble de déglutition, une pneumopathie, il a peut-être fait une thrombose, etc. Ce qui est compliqué, c'est que c'est tous ces facteurs qui peuvent être vus comme un facteur déclenchant de la confusion ou une cause, on peut retourner le problème et se rendre compte que quand on a ce petit patient qui est perdu à l'hôpital, désorienté, confus, eh bien on va s'acharner à traiter la pneumopathie, etc., et découvrir que c'est à la fois une cause, mais c'est en même temps une conséquence. Alors ça aussi, c'est une notion que j'essaie d'expliquer aux familles, c'est-à-dire que, je prends juste une minute pour l'expliquer, je crois que c'est hyper important. En fait, le système nerveux, en fait, on ne meurt pas du système nerveux. On meurt des complications. Donc une atteinte évoluée du système nerveux fait qu'il n'y a plus de régulation des organes et une perte d'homéostasie, et que d'une manière ou d'une autre, en fait, il y aura des complications, il y aura des infections, il y aura des chutes, il y aura des pneumopathies. Et que finalement, si on ne tient pas compte de cet arrière-plan qui est l'intégrité de la personne, on se retrouve à être dans l'aberration de traiter un organe. Au final, on va traiter méthodiquement une pneumopathie, on va donner des antibiotiques, on va traiter une infection urinaire, mais en fait, il n'y a plus personne autour. Et là, on se retrouve dans, finalement, un problème, on va dire, éthique. Donc, je voudrais juste insister sur le fait que le système nerveux central, ce n'est pas juste un organe, mais c'est quasiment, en fait, le gardien de l'organisme. Et que quand vous n'avez plus le système nerveux central, ben, en fait, vous n'avez plus l'organisme. Et que vous en êtes à traiter, comme je disais, ben, des organes. Et que finalement, si on met en place tous ces moyens qu'on va pouvoir éventuellement... listés ensemble, évoqués, eh bien, c'est tout simplement parce que cette cassure, elle reflète peut-être une perte d'intégrité, finalement une perte d'individualité. Et l'objectif, c'est, en mettant en place tous ces moyens de compensation, que ce soit soutenir les dents, que ce soit les interventions extérieures, ergothérapie, orthophonie, et puis on en reparlera, accueil de jour... et peut-être EHPAD, bah, au fond, c'est pour déplacer cette rupture. Voilà ce que je voulais dire.
Merci. On va prendre un temps de questions. Si certains ont des questions, c'est le moment. Mais sinon, les intervenants sont là. On peut aussi le faire tout à l'heure. Merci beaucoup, docteur... Dubois-Guéhennec. Je vais demander à Marc Pacalin de nous rejoindre. Ah, mais si, il y avait des questions. Allez-y, appuyez sur votre petit micro. Moi, je vous vois ici et hop, voilà. Normalement, c'est bon. Tout le monde vous entend.
Oui, voilà. J'aurais souhaité qu'on développe davantage sur les maladies apparentées neurodégénératives, puisque le docteur Dubois-Guéhennec a diagnostiqué mon épouse d'une APP qui a conduit à une DLFT, une démence lombo-frontotemporale.
Et votre question est sur les dépistages précoces ou sur
non,
quel
sur
type
sur l'évolution
votre question,
de cette maladie spécifiquement.
D'accord.
Est-ce qu'à terme, à moyen terme, est-ce que ça va développer un Alzheimer profond ou Je souhaitais savoir.
Alors, c'est pas tout à fait la thématique, mais si vous pouvez répondre rapidement, je ne sais pas s'il faut. Voilà, est-ce qu'il y a des évolutions ?
J'ai une interception, est-ce que vous pouvez juste.
Vous avez diagnostiqué mon épouse d'une APP qui a conduit à une DLFT, quoi, une démence lombo-frontotemporale.
Et la question de monsieur, est-ce que l'évolution, peut déjà dire que l'évolution va être vers une maladie d'Alzheimer ? Voilà.
Est-ce qu'à moyen terme, ça conduit.
Non, alors là, effectivement, il faudrait qu'on en parle à part, mais c'est une autre pathologie. Donc l'évolution n'est pas la même.
Ça ne rentre pas dans le cadre.
Ce sont des maladies apparentées, mais alors en revanche, vous avez le médecin qui est là. Peut-être que vous allez pouvoir prendre un petit moment à la pause pour pouvoir creuser en direct cette maladie apparentée spécifique. Peut-être que c'est plus, ce sera plus efficace de discuter avec monsieur.
Oui, peut-être, hein, parce que ça peut, c'est trop spécifique. Hein.
Et puis je pense que ça dépend aussi du stade, donc c'est peut-être bien de pouvoir vraiment réfléchir tous les deux. Il y avait une autre question. Madame, c'était pour monsieur. Oui, ah bah vous êtes mis à une place où il n'y a pas de micro, va falloir parler très fort, on vous écoute.
Est-ce que vous pensez que l'hôpital de jour n'est pas comme les moments où vous êtes vite, c'est-à-dire que vous êtes en les hospitalisant dans un hôpital de jour, n'est pas comme une hospitalisation ? Est-ce qu'ils ne perdent pas leur repère ?
Écoutez, j'aurais dû faire tout le topo sur le sujet parce que c'est passionnant. Donc c'est
l'année prochaine.
Là, si vous me lancez,
on
là, regarde
c'est que là-dessus.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une certaine vision des... Ce que je dis, je vais essayer de le dire très brièvement. En fait, il y a beaucoup de techniques pour essayer de maintenir un patient Alzheimer. Ce qui est touché dans cette pathologie, c'est ultra spécifique. Ça n'a rien à voir avec le reste de la médecine, en quelque sorte. Ça touche la subjectivité, ça touche l'intégrité de la personne. Et en fait, le patient perd son individualité et très souvent, on voudrait subvenir à ça par des moyens, des techniques, des méthodes, etc. En fait, on se rend compte que quand le patient est avec une ergo, une orthophonie, etc., le facteur humain, enfin là, c'est moi qui me mouille, hein, le facteur humain est supérieur à la technique utilisée.
C'est le lien qui compte, c'est voilà. La relation qui compte,
exactement.
La stimulation par la relation, c'est ce que vous voulez dire ?
Exactement. Et quand, en fait, les patients et les familles sont piégés dans cette ambivalence entre sortir, rester dans son environnement parce que c'est l'environnement familier, ou aller dans une structure ou l'accueil de jour parce qu'en fait, il y a du monde, eh ben, je pense qu'effectivement, c'est très fragile, c'est très difficile comme choix, mais qu'à tout prendre, le facteur humain me paraît supérieur à la familiarité des lieux qui un jour va être perdue.
La question était quand même la différence entre une hospitalisation, y compris de nuit, et une hospitalisation de jour, si je peux me permettre. Est-ce que le facteur nuit, je rentre dormir chez moi le soir, ça limite la désorientation ?
Et donc, pour répondre à votre question, parmi toutes les choses qui ont pu être inventées, etc., et qui paraissent quelquefois un petit peu accessoires et un peu artificielles, je trouve que l'accueil de jour est quand même une formule vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, le patient, si un jour il doit aller dans une institution, ben, on passe par quelque chose de progressif. Il y a un réel facteur humain qui est en jeu. Il y a du personnel. Il y a une adaptation qui est possible. Et on n'est pas sur une intervention ponctuelle qui va être très technique quelquefois, mais Et puis il y a un réel soulagement de l'aidant. Enfin, c'est vraiment.
C'est justement la thématique qu'on va aborder maintenant. Merci beaucoup, docteur Wagenknecht.